Oui. Juste en introduction, raconter l'histoire banale d'un jeune homme qui s'appelait Daniel. Et Daniel était un jeune homme un peu, on va dire, très, très agité. Et comme il était très agité, il aimait aller avec un ou deux copains dans les cités sensibles pour se défouler, comme on dit. Parce qu'il savait que dans les cités sensibles, on le provoquerait, et donc voilà, ça finirait en bagarre. Donc Daniel était quelqu'un de violent, on le qualifierait même de très violent. Et un jour, Daniel a connu le Seigneur, et quelques mois après cette rencontre avec Dieu, il a eu la visite d'un missionnaire américain, un homme de Dieu, un missionnaire qui travaillait en France et qui a été sur la route de ce jeune homme. Et quand il l'a rencontré, il a dit à Daniel, « Tu sais, maintenant que tu es converti, je crois que le Seigneur t'appelle à aller proclamer l'Évangile dans les cités sensibles. » Alors Daniel a été un peu surpris, puis comme il était comme un enfant devant le Seigneur, il a obéi et il a commencé son ministère dans les cités sensibles. Et il y a eu du fruit, parce qu'il a obéi tout simplement à Dieu. Et ce qui est extraordinaire dans ce changement de cet homme, c'est qu'il avait vécu la grâce. Et quand on vit la grâce, elle peut enlever toute étiquette sociale, la grâce. Elle nous permet de voir l'autre non plus comme je le vois avec mes yeux, mais de le voir avec les yeux du Christ. Et ça change tout. Ça change tout. La grâce nous permet de voir, comme dit l'apôtre Paul, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, 26. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Et Paul poursuit. Et c'est intéressant, la suite de ces versets. En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus... Ah oui? Moi, j'ai rien dit. Mais l'apôtre Paul l'a dit. Donc ce serait intéressant de voir comme Paul voyait les femmes, et je vous assure, il ne les voit pas comme certaines le pensent. Donc voilà, c'est pour montrer que quand Dieu vient dans une vie, il y a quelque chose qui se passe. S'il ne se passe rien, on est en droit de se poser des questions quand même. Et moi je vous invite à la lecture de Luc au chapitre 10. À partir du verset 25. Alors c'est un passage qu'on connaît, qu'on a entendu et relu, en principe, la plupart d'entre nous. En tout cas, pour ceux qui vont le découvrir, c'est un magnifique passage. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus, mais pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus répondit, « Qu'est-ce qu'il est écrit ? Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi ?» Et puis, il rajoute, « Et comment comprends-tu ? » Il lui répondit, on voit que c'est un homme qui connaît bien l'Écriture, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as très bien répondu. Fais cela et tu auras la vie. Mais notre homme revient à la charge. Cet enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, oui, mais qui est donc alors mon prochain ? Alors en réponse, Jésus va lui dire cette parabole. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut ému aux entrailles, pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et le recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'amena dans une auberge où il soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Jésus rajouta « À ton avis, lequel de ces 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ?» « C'est celui qui a eu pitié de lui, » lui répondit l'enseignant de la loi. « Eh bien, va. » Et agis de même, lui dit Jésus. Alors, c'est intéressant parce que Jésus n'a pas vraiment répondu à la question. Mais quand on reprend cette histoire, là où elle se situe, à Jéricho, c'est une région assez accidentée, en tout cas à l'époque, une région sauvage et dangereuse. Il y avait souvent des attaques, des brigands qui se mettaient là pour attaquer les voyageurs et les dépouiller et les molester et même les laisser à demi-mort, comme l'histoire de cet homme qu'on a nommé dans la plupart de nos Bibles le bon samaritain. Donc il est question de 3 personnages qui sont, on va dire, mis en valeur dans ce texte. Le prêtre, donc on pourrait dire le pasteur, c'est celui qui veille à l'époque, en tout cas celui qui veillait au sacrifice, qui offrait à Dieu dans le temple pour que tout soit parfait et gérer en fait la communauté, on va dire. C'était le responsable religieux. Il devait montrer la voie à suivre. En tout cas, c'était son but, puisqu'il était prêtre. Vous savez qu'aujourd'hui, on est tous prêtres. Hein. Il avait à charge le temple et le bon fonctionnement. Et puis, il y a le lévite, cet homme. Lui, c'était l'aide du prêtre. Il aidait le prêtre dans toutes les tâches qu'il y avait. Il nettoyait aussi le temple et prenait soin des bâtiments, on va dire. Il aidait aussi à faire respecter l'ordre dans la communauté. Il pouvait être chanteur, musicien. Donc on le qualifierait aujourd'hui de diacre. Et c'est intéressant, ces 2 hommes sont passés outre quand ils ont vu l'homme au bord de la route. Et puis, Jésus poursuit dans cette parabole en disant qu'il y a un samaritain. Alors les samaritains, ils n'étaient pas trop aimés. Hein. Ils avaient appris à connaître d'eux avec quelques israélites qui étaient là, donc il y avait un mélange, et les juifs les mettaient de côté. Ils avaient adopté la loi de Moïse, mais les juifs leur avaient refusé l'accès au temple, donc ils avaient leur propre temple, on pourrait dire. À l'époque de Jésus, les Juifs et les Samaritains, ils ne se fréquentaient pas, ou alors très peu. On les considérait comme des parias. Dire qu'on était un Samaritain, c'était une insulte. Aujourd'hui, il y a des mots qui sortent et on nomme des nations comme ça pour insulter les gens. en disant « tu es », voilà, donc je vous laisse deviner, et on le reçoit comme une insulte. Et pour les Juifs, c'était pareil, ils recevaient cette parole comme une insulte, une injure, quoi. Et les disciples eux-mêmes de Jésus, eh bien, quand on lit les évangiles, on voit qu'ils ne les portent pas trop dans leur cœur. Vous savez, à un moment, Jésus va devoir, avec les disciples, aller dans la Samarie. Et il va être rejeté. Et vous ne vous souvenez pas ce passage de Luc, c'est juste un peu avant, du 9,54. Les disciples qui étaient, celui qu'on appelle, qui aimait Jésus, qui était sur le cœur de Jésus, ils vont dire des paroles terribles. Je les ai relevées. Quand Jésus, avec les disciples, sont rejetés, ils vont dire à Jésus, « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume ?» Ça dénote un peu, tu vois, « Seigneur, ceux-là, ils ne veulent pas t'entendre. » On va éradiquer la situation, hein. C'est réglé, on les brûle tous. Alors qu'ils n'ont pas eu la même sensibilité envers les Juifs. C'est intéressant de voir qu'ils avaient du mal eux-mêmes à les supporter. Mais qu'est-ce qu'on apprend sur cet enseignant de la loi, cet homme-là qui pose des questions au verset 25, la première question, il nous est dit qu'il désire tendre un piège à Jésus, et sa première question est « Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Au verset 29, il veut dire « Mais qui est mon prochain ?» Donc, on voit que cet homme n'est pas très clair, son intention en tout cas n'est pas très claire. Il a, on pourrait dire, une apparence de piété, mais bon, il veut tout simplement coincer Jésus. Et moi, ça m'a interpellé cette parabole parce qu'on n'a pas travaillé le sujet, mais il a été dit quelque chose et donc ça m'a interpellé. Je n'ai pas eu beaucoup de temps de la travailler, mais il y avait des passages qui me revenaient comme ça. Qui est mon prochain ? Qui est mon prochain ? Alors, si vous êtes calviniste, c'est vite réglé. Le prochain, c'est celui qui est sous l'ancienne alliance ou sous la nouvelle alliance. Donc, en gros, hein, c'est assez intéressant. Et il s'appuie sur plusieurs textes, comme en disant qu'en Lévitique 19, 18, dans l'ancienne alliance, celui qui était le prochain, c'était le compatriote. Et c'est vrai, on retrouve cela, on retrouve certains textes. Ils vont même prendre des textes du Nouveau Testament, dans Paul, par exemple Galates 5, 14, qui parle de chrétiens qui sont leurs prochains, ils parlent de frères et de sœurs. C'est-à-dire celui qui fait partie du peuple de Dieu. Donc, on peut voir que le prochain, dans certains textes, c'est ceux qui sont sous la nouvelle alliance ou l'ancienne alliance. Mais, voilà, il faut faire attention à la parole. Ça commence à la Genèse, ça finit à l'Apocalypse. Il cite souvent le verset de Jacques 4, 12, « Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. » Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ? Donc on voit que c'est dans le cadre ecclésial tout ça, dans la communauté chrétienne. Alors moi, je rétorque souvent à ce texte, mais comment expliquer Exode 20, vous savez, quand le peuple d'Israël, déjà dans l'ancienne alliance, reçoit les 10 commandements ? Parce qu'il faut pouvoir répondre quand même. Il faut avoir des convictions dans ce qu'on croit. En tout cas, moi j'ai mes convictions qui sont propres. Par exemple, quand Dieu dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ». C'est vrai qu'il dit cela. Ça veut dire qu'on peut convoiter si on est dans ce que disent les calvinistes, on est dans le fait de qu'on peut convoiter la maison de quelqu'un qui n'est pas du peuple de Dieu. C'est comme ça que je le comprends. On peut poursuivre. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, alors ça signifie que je ne dois pas convoiter une femme juive ou chrétienne, mais je peux convoiter une femme qui n'est pas chrétienne. Et oui, vous voyez comment on peut s'enfermer. Et puis on va glisser comme ça dans tous les commandements. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis que pour moi, le prochain, C'est bien plus que le peuple de l'ancienne alliance et le peuple de la nouvelle alliance. Je n'ai pas trop cherché, parce que j'ai eu très peu de temps. Mais dans l'Ancien Testament, le mot « réa », c'est-à-dire le prochain, ça s'étend au-delà des Israélites, aux étrangers assimilés. Et là, il y a le chapitre 19, verset 18 à 16 à 18 qui le démontre. Et pour les Juifs de Jésus, l'affaire n'était pas aussi claire. Et c'est pour ça que ce Juif va poser la question à Jésus. Alors, dis-nous qui est le prochain. Vous voyez, première question qu'il pose, comment avoir la vie éternelle. Il voit que Jésus leur envoie la loi. Mais il dit alors, qui est le prochain? Parce que certainement que dans l'auditoire, il y a des gens qui ne sont pas forcément juifs. Vous voyez, quand on penche trop dans les extrêmes, c'est toujours dangereux, le déséquilibre. Il y a un autre déséquilibre aussi de dire que mon prochain, comme le dit le dictionnaire, c'est mon voisin, c'est tous ceux qui m'environnent. Je dirais ça, c'est une position humaniste et qui nous obligerait à combler toutes les misères du monde, à nous rendre responsables de toutes les misères qui existent sur la planète. Alors on se lancerait dans des œuvres sociales comme font les humanistes, même certains chrétiens, et on oublierait la croix. Et là, je crois qu'on est là aussi dans un déséquilibre. Parce qu'on voudra sauver tout ce qui nous entoure, faire maximum des œuvres, des œuvres, des œuvres, et on oubliera la croix. Dieu nous appelle à faire des œuvres, mais pas n'importe lesquelles. Celles qui nous sont préparées d'avance, pas plus. Et c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup. Alors, je dirais qu'il ne faut pas tomber dans l'humanisme, mais de savoir tendre la main vers ceux que Dieu place sur notre route. Celui qui est le prochain pour moi, c'est d'abord quand je suis chez moi, puisque chez moi il était écrit « Moi et ma maison nous servirons l'Éternel ». Donc en premier, c'était mon épouse. Avoir une bonne attitude avec son épouse, c'est la première des choses, puisqu'on est prêtre. Si ça se passe mal, le prêtre, il aura un mauvais témoignage. Ensuite, avec les enfants, avec les petits-enfants. Savoir être disponible en premier pour eux, puisque c'est notre église. Le foyer, c'est notre église. Et il faut que ça se passe bien dans le foyer. Si ça ne se passe pas bien dans le foyer, n'essayez pas d'évangéliser, hein, ce sera une catastrophe. Je vous le dis. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, Timothée dira à Paul, hein, il est pire qu'un impie. Il a renié la foi. Alors il est important d'aimer ceux à l'égard de qui on a une obligation en premier, c'est-à-dire sa famille spirituelle, parce qu'il y a énormément de textes sur la famille spirituelle. Vous savez, on est tous liés, c'est comme ça. Donc là aussi, et puis après, le prochain, moi je crois, c'est celui que Dieu place sur notre route. On n'a pas à courir, hein. C'est celui que Dieu place sur notre route. Tout simplement, ça peut être un copain, un ami, quelqu'un qui travaille avec nous, un collègue. Et ça, c'est intéressant, si on voit les choses comme ça. Parce que le mot « agapé » dans la Bible s'adresse bien sûr à ceux qui font partie de l'Église avec un grand E, de l'Église locale, etc. Mais aussi de ceux qui sont à l'extérieur. C'est pour ça que je crois que le prochain, c'est pas uniquement le peuple de Dieu. Mais revenons au texte et nous verrons ce que Jésus enseigne à cet homme. Parce qu'en fait, la première question, Jésus ne répond pas, comment avoir la vie éternelle. Il faut décrypter un peu. Jésus fait passer un dessein, un sacrificateur, un lévite, il nous est dit de l'histoire, c'est cet homme qui, à peine le voyageur a vu le malheureux blessé, le samaritain, qu'il est ému de compassion. En grec, c'est vraiment, ses tripes ont été pris. Hein. Et on peut comprendre que le lévite et le sacrificateur soient passés au loin, parce que peut-être qu'ils l'ont cru mort, ils ont dit des fois qu'on risquerait d'être contaminé, c'était la règle à l'époque, donc ils passent au loin. Mais c'est intéressant que Jésus met l'accent sur ce Samaritain ému aux entrailles. Ému aux entrailles. Si vous n'avez pas rencontré le Christ comme ça, vous n'aurez pas de l'amour pour ceux et celles que vous croiserez. Je ne le crois pas. Il va s'approcher, le bander de ses propres mains, ses plaies qui sont ensanglantées. Il va y mettre un remède. Il va le mettre sur sa propre monture, c'est pas rien. Il va marcher à ses côtés au péril des dangers. Hein. Il va passer la nuit avec lui, le texte nous le dit bien. Et il va s'occuper de prendre en charge toutes les dépenses. Et vraiment, il va dire, même s'il y a encore des dépenses, quand je repasserai, je réglerai la facture. Et la vraie question est, que dois-je faire? Du verset 25, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et moi, je répondrai, je décrypterai à ma manière ce que Jésus a dit. Si tu fais l'expérience de la grâce, alors il n'y aura plus de couleur. Si tu fais l'expérience de la grâce, alors il n'y aura plus de problème de rangs sociaux. Si tu fais l'expérience de la grâce, alors tu apprendras à voir les hommes et les femmes au travers de la croix. Tu apprendras plus à les voir avec tes propres yeux. Et tu seras ému de compassion quand tu devras être ému de compassion. Par cette attitude, tu comprendras et tu sauras que tu auras la vie éternelle. En fait, je crois que c'est ça que le Christ a voulu lui dire. Et si tu es sauvé, tu sauras reconnaître ton prochain. Il n'y aura plus de couleur. Dans la parabole du bon samaritain, Jésus nous invite à regarder beaucoup plus loin. La vie éternelle est une grâce, mais cette grâce nous met toujours en mouvement. On ne peut pas être des chrétiens qui ne bougent pas. Elle nous donne de porter du fruit pour que le monde voit qu'il y a quelque chose qui se passe en nous. Si je me dis chrétien, je dois vivre comme un chrétien, comme je l'ai dit au début. Parce que les non-chrétiens, ils regardent l'arbre, ils regardent les fruits. Et s'ils voient des beaux fruits, eh bien, ils ont envie de les manger. Tout simplement. S'ils ne voient pas de fruits, ils ne vont pas avoir envie. Donc c'est la grande responsabilité que nous avons, nous autres sacrificateurs. Sinon, si je suis simplement une personne qui croit en Dieu, en Jésus, ce n'est pas la même chose. Et c'est aussi pas la même chose quand je quitterai cette terre qui nous attend. Alors nous, en tant que chrétiens, laissons agir la grâce en nous, laissons-nous transformer pour que nous apprenions à tendre la main à ceux et celles que Christ placera sur notre route. Je vous invite à prier. Tu veux prier avec nous ?
Seigneur, merci encore pour ce que tu as voulu nous dire ce matin. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu as touché nos entrailles, Seigneur. Nous avons eu des pleurs et nous avons retrouvé la joie, Seigneur, grâce à toi. C'est toi qui libères, Seigneur, et c'est toi qui redonnes la joie. Seigneur, que nous soyons toujours attentifs à ce que tu veux nous dire, à notre prochain aussi, Seigneur. Et merci parce que tu nous accompagnes tous les jours. Amen.
Je vous invite à vous lever pour chanter le chant « Entends mon cœur » de 570. C'est possible, Marie ? Thank you.
Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, c'est comme la pluie, les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu l'entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur. Dans le champ d'amour, un enfant racheté, je prendrai les faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors dans mon cœur.
Recevoir ces paroles d'exhortation, de bénédiction de la part de Dieu. Donnez-vous les uns les autres le baiser des entrailles. C'est cela, hein? Paix à vous tous qui êtes unis par l'Esprit de Christ. Que la grâce et la paix de notre Dieu nous accompagnent tous. Amen. Bon dimanche, Nicole va vous faire les annonces.
Alors, quelques annonces pour cette semaine. Mardi 20h30, l'étude biblique. Nous irons chez Lily ou chez Pierre, on va se le dire. Mercredi à 17h, le club des enfants.